Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, alors dans cette émission, deux grands thèmes qui en fait vont se rejoindre. Alors tout d'abord, notre campagne mondiale, les 10 jours pour signer, du 6 au 16 décembre 2019. Et puis, nous parlerons aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui fête ses 30 ans d'existence. Sans oublier, bien sûr, les violences faites aux femmes. Mmh. Hein? Au début des années 2000, Amnesty International mandatait une chercheuse sur la France. Et on sortait un rapport alarmant qui montrait qu'une femme sur trois, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Et presque 20 ans plus tard, les chiffres sont toujours aussi alarmants. Mais on dirait qu'il y a quand même enfin une prise de conscience sur ces violences insupportables. Et puis, pour rejoindre les enfants, n'oublions pas que les enfants aussi subissent à contre-coup ces violences, si ce n'est pas directement. Et eux n'ont pas les mots pour parler, et c'est aux adultes à les protéger et à les écouter. Voilà, parce que c'est aussi des victimes, et il faudra une grande campagne pour faire prendre conscience de ces violences et supprimer, abolir ce déni. On ne veut pas voir et pourtant ça existe. Voilà. Alors on va commencer avec les 10 jours pour signer. Cette opération donc, qui est en fait née en Pologne par la section polonaise qui en 2001 a proposé dans son pays pendant 24 heures d'écrire à un certain nombre de victimes de non-respect des droits humains et essayer de faire signer un maximum de personnes pour ces personnes. Et en fait, cette opération a été reprise les années suivantes par plusieurs pays. Et puis maintenant, c'est devenu une action mondiale de toutes les sections d'Amnesty International. Alors nous, c'est toujours autour du 10 décembre, puisque c'est la journée internationale des droits de l'homme, puisque c'est un 10 décembre qu'avait été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, chaque année, des millions de personnes vont signer des pétitions, vont adresser des lettres aux autorités, des tweets ou des messages de solidarité aussi en faveur des personnes dont les droits sont violés ou menacés. Cette année, l'accent est mis sur des situations de jeunes âgés de 17 à 30 ans. Donc, vous voyez, il y a aussi des mineurs, hein, puisqu'un mineur, c'est une personne de moins de 18 ans. Et bien sûr, on a fait ce choix, c'est un peu lié aussi aux 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. À travers nos actions, nous établissons un lien entre les victimes des violations et celles et ceux qui, partout dans le monde, sont prêts à se mobiliser. Cette solidarité est déterminante, tout le monde peut y prendre part et chaque action compte. Tous les ans, la campagne 10 jours pour signer prouve que la force du collectif a de réels impacts sur les vies des personnes. À partir du 6 décembre, nous vous donnons donc rendez-vous pendant 10 jours. Tout le monde peut participer. Il existe une palette d'actions qui permet de se mobiliser où que l'on se trouve. Agir en ligne, écrire une lettre de soutien ou encore participer à une mobilisation près de chez vous en rencontrant une structure militante. En 2018, nous avions obtenu 5,9 millions d'actions militantes dans le monde. Et plus de 88 000 en France, personnes en France se sont mobilisées. On espère en 2019 faire mieux, encore mieux, pour ces 10 cas choisis. Alors, je vais vous présenter les 5 premiers cas et puis je vous dirai un petit peu sur Digne comment vous pouvez aussi agir. Alors, les 5 premiers cas. Le premier s'appelle José Adrian. C'est un adolescent qui a été arrêté sans raison et maltraité par la police. Ils l'ont torturé, en fait. Ils l'ont frappé au niveau de la poitrine et ils l'ont giflé. Il n'avait que 14 ans. Son seul crime, avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une rue d'un quartier pauvre où une altercation venait d'éclater entre les forces de police et un couple de jeunes. Au lieu d'avoir été protégé, José Adrian a été le seul à être inquiété. Un schéma classique au Mexique où la police prend régulièrement pour cible les personnes pauvres et d'autres issues d'une minorité. Donc là, vous pouvez aller sur le site amnesty.fr ou alors vous viendrez à Digne, à la médiathèque, le samedi 7 décembre pour venir signer pour cette personne. Et on propose cette année une carte de soutien à lui envoyer. Alors, comme il a le désir de devenir chef cuisinier, c'est une carte où vous pouvez lui envoyer votre recette préférée et puis lui mettre un petit mot de soutien. Vous trouverez cela sur notre stand.
Donc actuellement, il est emprisonné au Mexique.
Non, il n'est pas emprisonné, il a été libéré. Hein. Mm-hmm. Le problème, c'est que les parents ont porté plainte et rien ne se passe. Mm-hmm. Les policiers qui ont fait ça ne sont pas inquiétés. Et en fait, ils demandent justice.
D'accord.
Voilà. Parce qu'on leur a obligé à payer une certaine somme pour le faire sortir de prison, alors que c'est une famille très pauvre. Hein. Et puis, vraiment, il était pour rien, quoi. Hein. Mm-hmm. Ils s'en sont pris à un jeune de 14 ans. Voilà. Donc, on demande la fin de l'impunité. Et c'est un travail qui est très important à Amnesty, de lutter justement contre l'impunité. Voilà un premier cas. Un autre cas, Marinelle Ubaldo, aux Philippines. Elle est menacée par les conséquences du changement climatique. Elle se bat pour sauver sa communauté. Voilà, alors cette jeune femme avait 16 ans lorsqu'elle a vu un typhon Yolanda balayer son village du Samar oriental. Ce typhon, l'un des plus meurtriers de l'histoire, a fait 28 000 blessés, 6 300 morts et touché plus de 16 millions de personnes. Le gouvernement philippin n'a pas réagi à la mesure du désastre, laissant la population vivre dans des conditions calamiteuses. Donc on demande aux autorités philippines de fournir un accès à l'eau, à l'électricité, à un logement sûr et convenable et à des moyens de subsistance aux personnes souffrant des conséquences du typhon Yolanda de 2013. Voilà, un autre cas au Nigeria, Nassou Abdulaziz et les jeunes militants d'Otodo Mam. Vous voyez que souvent, c'est une personne ou un groupe de personnes. Voilà, ils sont mobilisés contre l'expulsion de son bidonville. Il a été attaqué et blessé. Voilà, sa vie a basculé en novembre 2016. Ce jour-là, les autorités tentent d'expulser de force, sans préavis, les habitants du bidonville d'Otodo Mam, une communauté installée depuis plus d'un siècle dans la mégalopole de Lagos. Les bulldozers débarquent au milieu de la nuit, détruisant des centaines de maisons. Certains habitants fuient le quartier, d'autres se retrouvent sans abri, emménageant chez leurs voisins ou érigent des abris de fortune. Donc on demande de mener une enquête sur l'expulsion forcée de Nassu et des autres habitants de son quartier et veiller à ce que ces personnes soient réinstallées et obtiennent pleinement réparation. S'engager à mettre en place un moratoire sur les expulsions forcées dans l'état de Lagos. Un cas en France. Un cas en France. Camille Allu, qui est harcelée et poursuivie après avoir observé des manifestations. Donc Camille Allu est une observatrice chez nos amis de la Ligue des droits de l'homme. Elle a rejoint la LDH il y a un an et demi et est choquée d'avoir vu une manifestation se faire gazer avant même d'avoir commencé. En documentant les pratiques des forces de l'ordre, elle veut alerter sur certaines dérives et encourager le respect du droit. Mais comme de nombreux observateurs de manifestations, dans le cadre de sa mission, Camille fait l'objet de pressions, intimidations et violences de la part de la police. Depuis avril 2019, elle a déjà passé 56 heures en garde à vue. Voilà, donc ce qu'on demande, c'est mettre fin au harcèlement des observateurs. Hein. Les observateurs ne manifestent pas, ils sont là pour observer ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Mettre en place des mesures concrètes pour respecter les défenseurs des droits humains en France et s'assurer qu'ils puissent revendiquer ces mêmes droits dans l'espace public. Voilà, donc on va interpeller le Premier ministre. Et puis des messages de soutien, bien sûr, aussi à Camille. Et puis, cinquième cas, les jeunes de Gracie Narrows au Canada. Ce sont des jeunes autochtones qui exigent la dépollution de leurs terres ancestrales. En effet, depuis plus de 50 ans, du mercure empoisonne rivières et poissons, essentiel à la subsistance du peuple autochtone Anishinaabe de Gracie Narrows, dans le nord-ouest de l'Ontario. C'est à l'heure actuelle l'une des pires crises sanitaires jamais connues dans le pays. Donc on demande aux autorités canadiennes de fournir des soins spécialisés de santé aux personnes ayant souffert de la contamination au mercure, d'accorder une indemnité à tous les membres de la communauté qui ont souffert des conséquences de l'empoisonnement, reconnaître officiellement que la population de Gracie Narrows souffre d'un empoisonnement au mercure. Vous voyez que de plus en plus, Amnesty s'investit dans la lutte pour un environnement sain, parce qu'un environnement sain, c'est le droit à la santé, bien sûr. Et donc, c'est capital et c'est justement l'un des problèmes majeurs actuels et qui va impacter fortement les droits humains de chacun et notamment des plus pauvres. Alors, on va mettre maintenant une chanson qui est justement qui a été faite par les jeunes de Gracie Narrows dans le Canada. Nous l'écoutons.
Thank you. gotta stay on point like the fastest arrow. Bring hope to the people of grassy narrows. One piece in the land can't go back to battles. It's fire in action, casting shadows. From old to the new, let us show you the truth. Light up the path, there's a glow in the youth. Bougie to the world, this is where we live. So let the journey begin.
Voilà,
c'était donc les jeunes de Gracie Narose, et nous écrirons donc pour eux. Et nous vous proposons également une carte postale de soutien à leur envoyer, voilà, eux qui subissent une des pires catastrophes écologiques au Canada. Avant de vous présenter les cinq autres situations, voilà comment vous pouvez participer. Alors, les Dinois et les gens du bassin dinois, vous pouvez venir le samedi 7 décembre de 10h à 17h à la médiathèque de Digne. Nous y serons avec les pétitions des 10 situations et ainsi que des cartes postales de soutien. Et puis, nous aurons aussi des albums pour enfants coédités par Amnesty et qui peuvent faire des cadeaux intéressants pour la Noël. Et puis, nous vendrons aussi les calendriers des cartes. Voilà. Vous pouvez bien sûr aussi également agir aux 10 jours pour signer sur le site amnesty.fr. Et puis, nous allons essayer de faire intervenir beaucoup de lycéens pour ces 10 situations qui concernent des jeunes. Alors, le samedi 7 décembre, en principe, 4 jeunes lycéens du Sacré-Cœur devraient nous rejoindre à la médiathèque pour nous aider à faire signer les personnes. Et puis, le lundi 9 décembre, nous serons au lycée Alexandra Davinel pour présenter les 10 jours pour signer à une classe de ce lycée. Et puis, le jeudi 12 décembre, nous tiendrons un stand au lycée Pierre-Gilles de Gênes afin de venir en aide à l'antenne jeune d'Amnesty International de ce lycée qui, pendant toute la durée des 10 jours pour signer, vont faire signer leurs amis, leurs collègues lycéens. Mais comme en même temps ils ont des cours, nous leur avons proposé de tenir un stand le jeudi 12 décembre devant l'entrée du réfectoire, entre 10h et 16h, et c'est là qu'on voit le plus de jeunes passer. Donc l'antenne jeune, quand ils seront libres, les jeunes de l'antenne jeune viendront nous rejoindre, et on enverra des cartes postales, et puis on fera signer le maximum de personnes. Voilà, on est très bien accueillis dans ce lycée Pierre-Gilles de Gênes. Le nouveau proviseur est tout à fait heureux d'avoir une antenne jeune dans ce lycée, et tout à fait disponible à nos interventions également. Voilà, alors les 5 derniers cas de cette campagne. Alors en Chine, il s'agit de Iliashi Lang Reeman et sa jeune épouse de 19 ans. Ils étaient étudiants à la prestigieuse université du Caire. Tous deux sont membres de l'ethnie Ouïghour, minorité musulmane de la région autonome du Xinjiang, à l'extrême nord-ouest de la Chine. Sa femme était enceinte de leur deuxième enfant lorsqu'il a disparu. Il ferait partie des 200 Ouïghours arrêtés par l'Égypte en juillet 2017 sur ordre des autorités chinoises et aurait été déporté avec 16 autres étudiants vers la Chine. Donc ce que nous demandons aux autorités chinoises, c'est de libérer Iliashi Reeman, excusez-moi la prononciation, de fermer les camps de rééducation révélés où se trouvent les personnes détenues dans ces camps et veiller à ce qu'elles puissent voir leurs proches et un avocat de leur choix pendant leur détention. Autre cas, en Grèce. En Grèce, on peut aller en prison pour avoir essayé de sauver une vie. C'est ce qui est arrivé à la Syrienne Sarah Mardini, 24 ans, et à l'Allemand Shane Bender, 25 ans, lorsqu'ils faisaient du bénévolat pour une ONG de sauvetage grec sur l'île de Lesbos. Leur activité consistait à repérer et secourir des embarcations en détresse. Le 17 février 2018, ils ont été arrêtés par la police grecque dans le cadre de leur activité bénévole. Ils sont accusés d'espionnage, de trafic d'êtres humains et d'appartenir à une organisation criminelle. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient passer 25 années en prison. Ils y ont déjà passé plus de 100 jours avant d'être libérés sous caution en décembre 2018. Donc nous demandons d'abandonner toutes les charges qui pèsent sur ces deux jeunes, de reconnaître publiquement la légitimité du travail des défenseurs des droits des personnes réfugiées migrantes. Voilà. C'est des cas qu'on peut aussi, hélas, trouver en France où on parle de délit de solidarité. Nous allons intervenir aussi au Soudan du Sud pour Maguey Mathiop Ngong. C'est un enfant qui a été condamné à mort sans avoir pu consulter un avocat. Voilà, il avait 17 ans. Il est dans le couloir de la mort au Soudan du Sud. C'est une sensation horrible lorsqu'on vous dit que vous allez mourir, dit-il. Reconnu coupable du meurtre de son cousin, il avait seulement 15 ans lorsqu'il a été condamné à mort par pendaison, ce qui est d'ailleurs contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant. Lors de son arrestation et de son procès, Maguey n'a pas eu le droit à un avocat. Le jeune homme a tenté de se défendre seul en rappelant son âge au moment des faits et le caractère accidentel du meurtre. Lors de son témoignage, Maguey a expliqué que son cousin le menaçait d'une arme lorsqu'il a tiré des coups de semonce au sol pour l'intimider et qu'une balle accidentellement a ricoché, blessant grièvement son cousin. Donc on demande de commuer la peine de mort prononcée contre ce jeune, de s'engager à ce que la peine de mort ne soit jamais prononcée à l'encontre de mineurs au moment des faits et d'établir un moratoire sur les exécutions dans le Soudan du Sud. Neuvième cas, en Égypte, Ibrahim Ez El-Din, qui a été arrêté arbitrairement et détenu au secret. Il travaillait pour la Commission égyptienne des droits et libertés et il enquêtait sur le bilan de l'Égypte en matière d'accès au logement, expulsion forcée, politique d'urbanisme. Dans la nuit du 11 juin 2019, il a été enlevé en pleine rue par des agents de sécurité égyptiens en civil dans son quartier de Mokattam au Caire. Nous demandons aux autorités de révéler immédiatement où se trouve Ibrahim et veiller à ce qu'il puisse consulter ses avocats, voir ses proches et soit protégé contre la torture et des autres formes de mauvais traitements, de libérer sans condition Ibrahim et de traduire en justice tous les responsables présumés de sa disparition. Et puis enfin, nous allons terminer par une jeune femme en Iran qui s'appelle Yasaman Aryani, qui a été jetée en prison pour avoir défendu le droit des femmes. Offrir une fleur, retirer simplement son foulard, deux gestes que Yasaman Aryani a osé faire en public, s'opposant ainsi aux lois du régime qui impose le port du voile. Pour cet acte de défiance poétique, elle a été condamnée à 16 ans de prison. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Yasaman Aryani, accompagnée de sa mère, a courageusement retiré son voile pour traverser un wagon réservé aux femmes en distribuant des fleurs. Des instants filmés, dont la diffusion est devenue virale en mars 2019, elle a confié son rêve d'un avenir où toutes les femmes auraient la liberté de choisir ce qu'elles portent et où elles pourraient marcher ensemble, moi sans foulard et toi avec. Voilà, donc nous allons demander de libérer immédiatement Yasaman Aryani et toutes les défenseurs des droits des femmes en Iran, de veiller à ce que Yasaman, dans l'attente de sa libération, ne subisse aucune torture ou autre mauvais traitement, et puis qu'elle puisse avoir accès à son avocat et à sa famille. Donc on va bien sûr envoyer des lettres, des pétitions, des cartes de soutien, et nous avons aussi, pour témoigner notre soutien, une carte là, avec sa photo, entourée de fleurs. Donc on demande aux gens qui sont d'accord de décorer, de colorier cette carte et donc de l'envoyer à Amnesty International France qui se chargera de la faire passer à Yasaman Ariani. Voilà, donc c'est encore une action que nous allons vous proposer à la médiathèque. Voilà, donc ben on va maintenant passer une chanson justement sur les femmes, qui parle des femmes, une très belle chanson qui est interprétée.
Alors moi j'ai Laetitia Isambert, est-ce voilà. que ça peut être ça?
C'est ça. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous y morcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite stature et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. J'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyée. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et si l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui sait d'où se défend, c'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur, ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou bien la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Très très belle chanson, un hommage aux femmes et puis un appel aux hommes à enfin les respecter, voilà, dans leur dignité. Et maintenant, donc, nous allons aborder les enfants. Hein. C'était il y a 30 ans, presque jour pour jour, le 20 novembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait à l'unanimité la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour la première fois, les États prenaient l'engagement de construire un monde dans lequel les enfants ont les mêmes droits fondamentaux que les adultes et doivent recevoir une attention spéciale car ils sont plus vulnérables. À l'exception honteuse des États-Unis, tous les États ont ensuite ratifié ce texte, le rendant ainsi contraignant. Il repose sur trois principes qu'on appelle les trois P. Alors P comme protection de l'enfant de graves violations de leurs droits, telles que par exemple l'obligation de travailler ou les mutilations sexuelles, les mariages précoces. P comme prestation, car les États doivent par exemple lui garantir l'accès à la santé, à l'éducation, et P comme participation, grâce à l'accès à l'information, la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, la liberté de conscience et de religion, et la garantie que sa parole sera prise en considération. Est-ce un heureux anniversaire ? Certes, des progrès immenses ont été accomplis. La scolarisation des enfants a augmenté de 30% en 30 ans. Le nombre de mariages forcés a baissé de 23 millions ces 10 dernières années. Le taux d'extrême pauvreté a été réduit de moitié, passant de 52,2% de la population mondiale en 1980 à 22%. Mais tous les États ne respectent pas leur engagement. Le premier scandale planétaire, ce sont les conflits armés dont les enfants sont 5 fois victimes. 420 millions d'entre eux sont confrontés à la guerre, dont 250 000 sont enrôlés de force. La guerre les prive également d'école, de soins, d'accès à l'eau potable et à la nourriture. 28 millions d'enfants sont déplacés ou réfugiés, parfois séparés de leur famille, en raison de ces conflits. Et tous ceux qui, à Digne, s'occupent des migrants, des jeunes migrants, des mineurs isolés, savent ce que ça veut dire et perçoivent ce qu'ils ont subi. L'autre scandale, c'est la misère. 152 millions d'enfants sont encore contraints de travailler. 93 millions d'entre eux ne vont pas à l'école. La pauvreté les prive d'un avenir quand elle ne les tue pas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque jour, plus de 21 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies évitables. Les violations des droits de l'enfant ne sont pas une fatalité. Vous avez le pouvoir d'agir pour les faire cesser. Relayez l'une de nos campagnes pour appeler un État à faire appliquer la loi contre les mariages forcés ou à cesser de placer des enfants migrants en détention. Interpellez un député français pour exiger plus de transparence et un contrôle parlementaire sur nos ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, sachant le nombre de victimes civiles, dont des enfants, qu'elles vont faire dans le conflit au Yémen. Signez une pétition pour empêcher l'exécution de Mohammad Reza Haddadi, un mineur iranien. Sensibilisez le grand public en organisant un ciné-débat autour d'un film comme « Pour Sama », dédié à une petite fille née sous les bombes en Syrie. Il nous revient de maintenir la pression sur les États pour faire appliquer la Convention. Chacun peut soutenir ce combat et contribuer à construire un monde digne de la promesse qui fut faite aux enfants il y a 30 ans. Nous devons écouter et amplifier la voix des enfants eux-mêmes. Lorsque Malala réclame le droit à l'éducation au Pakistan, lorsque Emma Gonzalez s'insurge contre l'omniprésence des armes à feu aux États-Unis, ou lorsque Greta Thunberg éveille notre conscience sur l'urgence climatique. Et lorsqu'ils n'ont ni les mots ni les moyens de se défendre, protégeons leurs droits tous ensemble. Leur avenir dépend de notre humanité. Voilà ce que je viens vous lire. C'est une déclaration de Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France, qui a été faite pour le journal. Pour un journal. Voilà. Donc, on va maintenant écouter une chanson qui a été faite par les rugbymen français. Ouais. Voilà, c'est étonnant. Ces grands gaillards qui ont chanté les droits des petits hommes.
Alors, ça arrive. Alors, elle est où ? Les droits des petits hommes, c'est tout de suite, pardon, Régis.
Voilà, par les rugbymen français.
Un enfant a des droits, mais ne peut se défendre. Sa parole n'a pas de poids, il faut bien le comprendre. Il faut savoir entendre un enfant qui ne dit rien. On ne peut ignorer ce silence plein de chagrin. Les droits des petits hommes, c'est le droit des enfants à devenir des hommes, à devenir des grands. Y'en a marre des martyrs, des sadiques, des satyres. Faudrait pas oublier.
Quand je rentre à mêler,
c'est pas ça les détendre.
Mais moi, je suis assez grand pour me défendre.
Un enfant battu, maltraité ou violé
a souvent du mal à comprendre.
L'enfant c'est l'innocence, le rêve et l'insouciance. Notre seule obsession, c'est d'assurer sa défense.
Dis que la vérité
sort de la bouche d'un enfant. Alors pourquoi douter
de ce qu'il dit tout le temps.
Les droits des petits hommes,
c'est le droit des enfants
à devenir des hommes, à devenir des grands.
Y'en a marre des martyrs, des sadiques, des satyres. Faudrait pas oublier les enfants, c'est la vie. Faudrait pas oublier les enfants, c'est
un enfant qui souffre.
On ne peut fermer les yeux quand il tombe dans ce gouffre.
Briser un petit homme, c'est tuer la vie.
Et tuer l'amour qui est en lui.
C'est tellement facile de s'acharner sur un petit.
C'est pourtant pas difficile de veiller sur lui.
Que tous ceux qui se croient au-dessus des lois
arrêtent de croire qu'on ne chopera pas.
On peut prendre un marron quand on prend un ballon.
On a la force de répondre,
la force de faire front.
Celui qui frappe un homme peut finir par terre.
Celui qui frappe un petit homme finira en enfer.
Petits hommes, c'est le droit des enfants à devenir des hommes, à devenir des grands.
Y'en a marre des martyrs, des sadiques, des satyres.
Faudrait pas oublier les enfants, c'est la vie. Les enfants, c'est la vie.
Voilà, digne, je sais qu'il y a beaucoup de rugbymen. Mmh. Donc voilà, une chanson chantée par le rugbymen français pour les enfants. Je vais vous citer quelques articles de cette Convention internationale des droits de l'enfant et vous montrer que dans certains pays, elle n'est pas respectée. L'article 9. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents, à moins que les autorités compétentes ne décident que cette séparation est nécessaire pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, en application de la politique de tolérance zéro voulue par le gouvernement de Donald Trump, des enfants des familles immigrants aux États-Unis sont arrachés à leurs parents, enfermés dans des cages. L'article 38, échappé à la guerre, Les États signataires s'engagent à respecter les règles du droit humanitaire et à apporter aux enfants une protection spécifique. Ils doivent ainsi veiller à ce que ces derniers ne participent pas directement aux hostilités. Un protocole additionnel à la CIDE fixe à 18 ans l'âge minimum de participation aux hostilités. Au Yémen, pour prendre leur enfant en famille pauvre et en faire des soldats, les Houthis leur promettent de l'argent. Si leur enfant meurt au front, les parents reçoivent environ 100 € par enfant et par mois. Ils font également appel à leur fierté en promettant que des affiches à la gloire de leurs enfants seront placardées dans le quartier. 1500 enfants auraient ainsi été recrutés de force, des actes barbares violant la convention signée par le Yémen relative aux droits de l'enfant et son protocole relatif à l'engagement des enfants dans les conflits armés. Article 19. Vivre dignement même en exil. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence. Des millions d'enfants ont fui la guerre, les persécutions, la pauvreté ou une situation climatique extrême. Contraints de quitter leur pays et parfois leur famille, ils espèrent trouver un environnement meilleur pour vivre et grandir, notamment en Europe. Hélas, au terme d'un voyage marqué par des expériences violentes et traumatisantes, des enfants peuvent se retrouver seuls dans les rues de nos villes, d'autres sont détenus dans des centres de rétention. En France, entre janvier et août 2018, 135 enfants y ont été enfermés, dont 70 enfants de moins de 6 ans, sans l'aide et la protection auxquelles ils ont droit. Article 31. L'enfant a droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et de participer librement à la vie culturelle et artistique. L'enfant a le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et contre tout travail mettant en danger sa vie et son développement. Trop d'enfants exploités au péril de leur vie ont oublié ce que jouer veut dire. 152 millions d'enfants dans le monde travaillent, soit un enfant sur 10. Article 28. Les États signataires doivent rendre l'école primaire gratuite et obligatoire pour tous, assurer pour tous l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur et former des enseignants de qualité. Sans accès à l'école, 252 millions d'enfants et d'adolescents sont privés d'avenir. Article 37. Bénéficier d'une justice adaptée. Les États parties doivent adopter des systèmes de justice dédiés et appropriés aux enfants. La mise en place des juridictions pour enfants doit leur permettre de ne pas être privés de liberté de façon illégale ou arbitraire, de bénéficier d'une protection juridique, de ne pas être emprisonnés et séparés des adultes, mais aussi de ne pas être condamné à mort. Les conclusions du rapport d'Amnesty sont sans appel. Elles révèlent que les autorités égyptiennes soumettent des mineurs à de terribles violations des droits humains, notamment la torture, l'isolement prolongé et des disparitions forcées pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 7 mois. Les familles de 6 mineurs ont déclaré qu'en détention, ces derniers avaient été roués de coups, suspendus par leurs membres ou avaient reçu des décharges électriques dans les parties génitales. Beaucoup d'entre eux sont jugés comme des adultes alors qu'ils ne sont que des enfants, dans le cadre de procès iniques, sans la présence de leurs avocats ni de leurs tuteurs légaux. Article 24. Être soigné. L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de soins médicaux. L'État met un accent particulier sur les soins de santé primaire et les soins préventifs. Chaque jour dans le monde, plus de 21 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies évitables. Être à l'abri, article 34, être à l'abri de l'exploitation sexuelle. Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle, contre son exploitation à des fins de prostitution ou d'autres pratiques sexuelles illégales, à des fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique. Au Burkina Faso, malgré une loi l'interdisant, les mutilations génitales féminines continuent d'être pratiquées clandestinement, entraînant de graves complications pour les jeunes filles. Outre l'extrême douleur et le traumatisme moral, les conditions sanitaires dans lesquelles sont effectuées ces mutilations entraînent de graves complications menant parfois à la mort. Elles s'ajoutent à la pratique des mariages forcés, qui touchent 51 filles mineures sur 100. Les mariages forcés peuvent entraîner des grossesses précoces et des complications liées à la grossesse, au détriment de la santé et de l'accès à l'éducation des jeunes filles concernées. Voilà quelques exemples d'articles et puis de leurs violations. Donc je vous rappelle que vous pourrez à partir du 7 décembre voir à la médiathèque une exposition sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle sera visible pendant toutes les vacances de Noël. Et nous allons maintenant passer... J'ai encore perdu mon papier.
Alors, c'est le comprendre le droit des enfants.
Voilà, comprendre le droit des enfants. C'est quelque chose que vous pouvez aussi voir en allant sur le site d'Amnesty.fr.
J'envoie ?
Envoie.
Allez.
Voir pour comprendre les droits de l'enfant. Chaque jour dans le monde, 35 000 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de leurs conditions de vie. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Mais s'il n'y avait que ça. En 2019, un enfant sur 5 est privé d'éducation, lorsque des milliers d'autres vivent en zone de guerre et doivent parfois quitter seul leur pays pour espérer survivre. Pour beaucoup, grandir relève donc d'un combat. On estime qu'il y a 2,2 milliards d'enfants dans le monde. Mais être un enfant, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien déjà, c'est avoir au moins 18 ans. Mais vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas là. Être un enfant, c'est avoir des besoins spécifiques, qui demandent bien entendu des droits particuliers. Des droits réunis dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ou CIDE pour faire plus simple. Mais ce texte n'est pas apparu comme par magie du jour au lendemain. La CIDE est issue d'un long processus et de combats pour faire valoir les droits des enfants partout dans le monde. Et tout ça s'est fait en quatre grosses étapes. Tout commence au 19e siècle, lorsque les premières lois sur le travail des enfants dans les pays occidentaux font leur apparition. À cette époque, il n'est pas rare que les plus jeunes d'entre nous travaillent jusqu'à 12 heures par jour. En 1924, avec la déclaration de Genève, la communauté internationale reconnaît pour la toute première fois les droits spécifiques des enfants. Un texte très court de 5 articles, mais qui constitue le socle de base des droits de l'enfant, sans discrimination. En 1959, 11 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration des droits de l'enfant. Un texte qui énonce en 10 points les principes contribuant à une enfance heureuse. En 1966 est signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies. Un texte qui est certes général, mais qui a d'importantes répercussions sur les droits de l'enfant, comme le droit à la protection contre l'exploitation économique, le droit à l'éducation et à la santé, ou encore le droit à un nom et à une nationalité. C'est enfin le 20 novembre 1989 que la CIDE voit le jour. Un texte international réunissant les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels de l'enfant. Pour faire simple, ce texte fixe les grands principes des droits de l'enfant à travers 54 articles. Bon, ça serait trop long de les présenter tous ici, mais on y retrouve par exemple le droit à l'éducation, le droit à la non-discrimination, le droit à la survie, ou encore la prise en compte de l'enfant et de son point de vue pour toutes les décisions qui peuvent le concerner. Aujourd'hui, 196 pays se sont engagés à mettre en œuvre la CIDE pour que les enfants aient les mêmes droits qui les protègent, où qu'ils vivent. Et c'est très bien, mais malgré ça, les inégalités persistent. De trop nombreux enfants subissent de graves discriminations en fonction de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur religion ou encore de leur handicap s'ils en ont. Encore aujourd'hui, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à la naissance et un enfant sur 7 ne possède pas de certificat de naissance. Une situation qui peut sembler anodine, mais qui a en fait de graves répercussions, car ces enfants sont invisibles aux yeux de leurs États et ne peuvent donc bénéficier d'aucun droit. Selon l'Organisation mondiale du travail, un enfant sur 10 travaille. Mais le pire n'est pas là, car la moitié d'entre eux participent à des activités dangereuses lorsqu'ils ne sont pas vendus et réduits à l'esclavage. Bon, prenons par exemple une situation concrète. Pour fabriquer les batteries de nos portables et de nos voitures, les constructeurs utilisent du cobalt, un minerai que l'on trouve notamment en République démocratique du Congo. Ce minerai, très demandé, est extrait dans des conditions très dangereuses par des adultes, mais aussi par des enfants, parfois âgés de seulement 7 ans. La poussière de ce matériau est extrêmement toxique. À force de la respirer, cela peut provoquer des maladies pulmonaires mortelles. De plus, les tunnels étroits et profonds de ces mines ont des structures très fragiles et s'effondrent régulièrement, piégeant tout le monde à l'intérieur. Comme en 2015, où au moins 80 mineurs sont morts suite à un effondrement. En République démocratique du Congo, on compterait pas moins de 40 000 enfants travaillant dans les mines, la plupart dans des mines de cobalt. Ils peuvent y travailler jusqu'à 12 heures par jour, et transportent de lourdes charges. Une tâche extrêmement difficile, et même dangereuse, pour espérer gagner seulement 1 ou 2 dollars par jour. Ce minerai est ensuite transformé en composants et vendu à de grandes entreprises du secteur de la technologie et de l'automobile. comme Microsoft, Samsung, Sony, Daimler ou encore Volkswagen. Et en France alors, comment ça se passe? Le pays des droits de l'homme est-il si irréprochable que ça en termes de droits de l'enfant? Eh bien, malheureusement, non. Avez-vous déjà entendu parler des centres de rétention administrative où sont enfermés un grand nombre de personnes étrangères dont les papiers ne sont pas en règle? Ces personnes sont parfois accompagnées d'adolescents, de jeunes enfants, ou même de nourrissons, eux aussi privés de liberté, surveillés par des policiers et enfermés derrière des grillages. En 2017, 305 enfants ont subi cette injustice. Un chiffre qui est malheureusement en nette augmentation. Bon, il est vrai qu'après avoir entendu tout ça, c'est compliqué de positiver. Mais cela étant dit, tout n'est pas perdu, car globalement, les droits de l'enfant sont de plus en plus pris en compte et certaines sanctions commencent à tomber. Par exemple, plusieurs chefs de guerre ont été condamnés devant la Cour pénale internationale, notamment pour l'enrôlement d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Ce même pays s'est d'ailleurs engagé à mettre fin au travail des enfants avant 2025. Plus généralement, le taux mondial de mortalité des moins de 5 ans a chuté de 56% entre 1990 et 2016. Le nombre d'enfants et d'adolescents non scolarisés a lui aussi chuté de près de la moitié depuis 2000. Ajoutons enfin que l'une des grandes avancées observées ces dernières années concerne l'implication et la participation des enfants dans le développement de la société. Le combat de Malala pour le respect du droit à l'éducation dans le monde et celui de Greta Thunberg pour le climat témoignent de la place de plus en plus importante de l'expression des jeunes dans l'espace public. Alors oui, rien n'est encore gagné, mais un mouvement positif s'opère. Nous pouvons agir pour que cette tendance s'accélère. Pour cela, pas de solution miracle. Les États doivent prendre leurs responsabilités et faire respecter les engagements qu'ils ont pris en signant la CIDE. Les parents doivent guider leurs enfants vers plus d'autonomie pour qu'ils puissent eux-mêmes revendiquer leurs droits. Enfin, chacune et chacun se doit de signaler tous les abus dont ils pourraient être témoins. Les droits de l'enfant sont importants. Ils doivent être respectés partout dans le monde, car comme le disait Kofi Annan, rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité.
Voilà. Vous pouvez le réécouter sur Internet. Hein. Ça s'appelle « Voir pour comprendre, le droit des enfants ». Et c'est fait par Amnesty International. Donc maintenant, je vous rappelle donc nos prochains rendez-vous. Le groupe dinois, normalement, le mardi 26, donc demain, à sa réunion, mais nous l'avons reporté parce que nous allons participer à une soirée autour de l'accueil des migrants qui est organisée à René Char. Donc nous allons tenir un stand dans le hall avec d'autres associations. Donc je vous rappelle cette soirée, demain soir, à René Char, à 18h15, c'est la projection du film documentaire « Un paese di Calabria ». C'est l'histoire de ce village en Calabre qui a accueilli des réfugiés et qui, du coup, les réfugiés ont fait revivre ce village qui était en train de mourir. À 19h30, il y aura un buffet partagé et des échanges. À 20h30, la projection du film « Déplacer les montagnes » de Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc, suivi d'échanges avec les réalisatrices. Voilà, donc le groupe d'Amnesty de Digne va participer à cette soirée. Alors je vous rappelle que l'exposition sur la Convention internationale des droits de l'enfant, qui se trouve actuellement au lycée Pierre-Gilles de Gênes jusqu'au 6 décembre, sera installée à partir du 7 à la médiathèque de Digne jusqu'au 27 décembre. Le samedi 7 décembre de 10h à 17h, vous pouvez venir à la médiathèque nous rencontrer, signer les pétitions pour les 10 situations dont je vous ai parlé précédemment, ainsi que signer des cartes, colorier des cartes, envoyer des messages de soutien, acheter un calendrier ou peut-être des albums pour enfants en vue des cadeaux de Noël. Voilà, et puis nous continuerons donc les 10 jours pour signer au lycée Alexandra Davinel le lundi 9, et puis le 12 décembre nous serons au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Je vous rappelle également que les coquelicots, vous savez, ce regroupement qui demande l'interdiction des pesticides pour la santé de tout le monde et puis pour la santé des agriculteurs aussi. Le mardi 3 décembre, il y a un rendez-vous à Marseille, pour ceux qui peuvent, au tribunal administratif, parce que le préfet vient de mettre au tribunal administratif Brigitte Reynaud, vous savez, qui est la maire de Revesse-des-Brousses, qui a fait un arrêté pour interdire les pesticides
près des écoles.
Près des écoles, des établissements, des maisons, des habitations en fait. Donc le mardi 3 décembre, c'est au 24 rue Breteuil à Marseille, ce soutien. Et puis bien sûr, le vendredi 6 décembre à 18h30, c'est le rassemblement des coquelicots au kiosque à Digne. Voilà, on va terminer cette émission par une chanson sur les enfants aussi, d'Yves Duteil, « Tous les droits des enfants », chanson écrite et chantée pour l'UNICEF.
On l'écoute et on se salue, il y a plus de... Hein
voilà.
On se quitte sur cette chanson d'Yves Duteil. Merci Régis, à très bientôt, à demain déjà pour la projection du film.
Voilà, à demain.
Au Centre culturel en Ichard.
Toi quand tu pleures, parce qu'un grand t'a trompé, en te prenant les fleurs que tu voulais garder. C'est un peu de mon sang qui coule dans tes veines. Si tu as du chagrin, j'ai aussi de la peine. Ainsi des pouvoirs surprenants, ils résument à eux seuls tous les droits des enfants.
Je voudrais les offrir à tous ceux sur la terre qui vivent dans la peur, la souffrance ou la guerre. La force de ces mots peut leur ouvrir un jour
l'horizon vers la paix, la tendresse et l'amour.
Ils sont là noir sur blanc, et si tu peux les lire, tu as droit au bonheur, à l'air que tu respires, au soleil dans ton cœur, tu peux t'appartenir. Bien sûr ces mots savants pesés par des juristes l'air d'être ennuyeux, compliqué, un peu triste. Mais ce sont avant tout des mots d'amour pour vous, écrits pour protéger l'agneau contre les loups. Eux seuls pourront rouvrir la porte vers l'oubli. Ceux qui sans rien faire ont sombré dans la nuit, ont sombré dans la nuit. Il fallait un bouquet de ces mots réunis qui disent à tout cela, quel que soit leur pays,
que la voix du plus fort n'est pas toujours meilleure.
Ils ont droit au bonheur. Je suis toi quand tu pleures, mais je suis toi aussi. Quand tu chantes et tu ris, tu as droit à ta vie.